Bonsoir et bienvenue dans cette émission clôture vendredi 12 novembre dernier de la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow en Écosse. Ces assises qui avaient pour but de pousser le gouvernement à prendre de nouveaux engagements pour répondre à la menace du réchauffement climatique ont abouti à des engagements, notamment maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius d'ici 2030. À cet effet, les pays ont décidé de promouvoir les énergies renouvelables et de réduire l'utilisation des énergies fossiles d'ici 2030. La RDC, vu ses richesses naturelles, s'est présentée comme pays solution à la crise climatique mondiale. Affirmation du président Félix Tshisekedi dans son message à marge de la COP26. Dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI en sigle, la RDC a obtenu un financement de 500 millions de dollars américains sur 10 ans pour protéger sa forêt. Quelle lecture faites-vous des recommandations issues de la COP26 et qu'est-ce que la RDC devrait-elle faire pour concrétiser les engagements pris lors de ces assises? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons professeur Joseph Longunza Malatsi, il est conseiller climat de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Il est enseignant à l'Université de Mbandaka et à l'Institut supérieur de développement rural de Mbandaka, docteur en droit de l'environnement, ressources naturelles et du changement climatique de l'Université KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Bonsoir, professeur Joseph Longunza Malatsi.
Bonsoir, monsieur.
Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique des peuples autochtones. Bonsoir, Patrick Saïdi. Voilà, on me signale qu'il n'est pas encore là. Alain Parfait-Ngoulungou, expert en gouvernance forestière et climatique. Bonsoir Alain Parfait-Ngoulungou.
Bonsoir Monsieur Dimati.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
À Kinshasa, le groupe de travail climat RED plus en sigle GTCRR a organisé à son siège dernièrement un point de presse sur les nouveaux partenariats CAFI-RDC pour la période 2021-2031, tout en félicitant les négociations qui ont abouti au décaissement de 500 millions de dollars américains. Omer Kabasele, président du comité de pilotage des GTCRR, a souligné que les engagements pris en faveur des projets de protection des forêts du bassin du Congo doivent être respectés. Au cas contraire, la société civile ne va pas hésiter de se désengager de ce processus. Omer Kabasele fait cette déclaration au micro d'État Tima Puku Dilengenju.
Que ce soit dans le cadre des résultats, que ce soit dans le cadre des réformes, que ce soit dans le cadre programmatique, que les engagements soient respectés. Autrement, la société civile environnementale aura son rôle de faire remarquer ces dysfonctionnements au grand public et peut-être se désengager, parce qu'on ne peut avancer que lorsque chaque partie respecte ses engagements. Nous allons devoir aussi, pour d'autres parties, des mises en œuvre de ce mécanisme, demander en insistant la possibilité de responsabiliser les entités nationales, comme nous venions de le dire dans notre note de position, et relevée par les collègues qui sont avec nous ici, la possibilité d'accorder une marge de manœuvre décisionnelle dans la mise en œuvre de ce mécanisme avec ses financements. Ici, de manière très claire, nous ne voudrions pas que les porteurs de projets puissent constituer un obstacle aux bienfaits que nous attendons au niveau des communautés locales et peuples autochtones pygmées. Ça, c'est très important. On ne peut pas faire la lutte contre le changement climatique sans lutter en même temps contre la pauvreté. On ne peut pas protéger les forêts sans une sécurité foncière accordée aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées.
Professeur Joseph Longunza Malatsi, je rappelle que vous êtes conseiller climat de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Vous êtes enseignant à l'Université de Mbandaka et à l'Institut supérieur de développement rural de Mbandaka, docteur en droit de l'environnement, ressources naturelles et du changement climatique de l'Université KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Nous rappelons que la conférence sur les changements climatiques COP26 s'est déroulée du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Professeur, d'abord, quel bilan pouvez-vous dresser de cette conférence?
Merci, monsieur le journaliste, pour la question. J'en profite aussi pour saluer les auditeurs de la radio Okapi et aussi pour vous remercier davantage pour avoir pensé à nous inviter à cette plateforme afin de pouvoir nous entretenir autour des questions relatives à la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Bon, pour répondre à votre question, la lecture que nous faisons de cette COP, c'est une lecture mitigée. Et c'est pas une surprise parce que pour ceux qui, comme moi, ont étudié l'histoire des négociations climatiques à partir de même avant la Convention cadre des Nations Unies de 92, qui elle-même était la conséquence des réflexions au niveau international sur la problématique du climat au niveau mondial. Ceux qui connaissent l'histoire de ces négociations sauront que il y a une expression qui est toujours utilisée, la montagne a toujours accouché d'une souris. Ça veut dire que les espoirs qui précèdent les périodes de négociation ont toujours été des espoirs très élevés. Les promesses qui sous-tendent ces négociations ont toujours été des promesses très nourries. Mais arrivé au moment où les décisions doivent se prendre, le monde assiste toujours à des décisions qui ne reflètent pas les attentes. Et c'est un tout petit peu aussi mon sentiment par rapport à cette 26e COP où il était attendu des décisions et des pas un peu plus fermes que ce que nous avons entendu. Mais qu'à cela ne tienne, pour voir le côté positif des choses, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont produit des résultats sur lesquels nous pouvons nous reposer en attendant la continuité des négociations pour parvenir à des résolutions qui soient un peu plus positives en termes de lutte contre le changement climatique et de l'adaptation des différentes communautés qui sont exposées aux effets de ce fléau.
Oui, professeur, c'est après des longues négociations que certains engagements ont été pris. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'engagement, beaucoup d'engagements fermes, mais il y a quand même des engagements qui ont été pris, notamment maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius d'ici 2030. Comment vous expliquez cela en des termes clairs, parce que l'émission aussi est pédagogique, maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius d'ici 2030?
En des termes clairs, la température moyenne au niveau mondial est en train d'augmenter et c'est la conséquence de l'accumulation plus que proportionnelle des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et les gaz qui lui sont équivalents dans l'atmosphère. Et cette accumulation est, aujourd'hui la science l'a confirmé, à plus de 97%, 98%. Je cite ici le dernier rapport de l'IPCC. L'IPCC, c'est le groupe intergouvernemental des scientifiques qui surveille le climat mondial. Donc, ils l'ont confirmé que cette augmentation est d'origine humaine et précisément, elle est d'origine industrielle. Donc, maintenir le niveau d'augmentation de la température mondiale à un certain niveau qui n'entraîne pas un cataclysme climatique, ça veut dire un désordre incontrôlé dans le climat mondial, voudrait tout simplement dire réduire d'abord le rythme des émissions de gaz à effet de serre tel qu'il se présente actuellement au niveau international. Et ensuite, il faut retirer le trop-plein de gaz à effet de serre qui aujourd'hui cause déjà le changement climatique que nous sommes en train d'expérimenter. Et la conférence qui a eu lieu à Paris en 2015 avait décidé que les États qui sont membres, les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique puissent déployer un effort pour pouvoir contenir cette augmentation de température à 2 degrés d'ici la fin de ce siècle, mais de pouvoir déployer des ultimes efforts afin que cette augmentation de température puisse, au lieu de 2 degrés Celsius, être contenue à 1,5 degrés, ce qui était encore possible en 2015 lorsque l'accord de Paris avait été négocié et signé. Et actuellement, vu le niveau des émissions, spécialement au niveau des pays industrialisés, qui ne cesse d'augmenter, je rappelle ici que les émissions augmentent par différents facteurs, notamment la sous-déclaration des émissions réelles. Ça veut dire qu'un pays qui émet, je donnerai un exemple, 100 tonnes de gaz à effet de serre par année va peut-être en déclarer seulement la moitié. Et ça, ça pose problème parce que les États peuvent manipuler ces chiffres à ce niveau-là, mais le grand témoin, ça reste le climat au niveau mondial qui, lui, ne cesse de nous dire que l'anomalie est toujours là. La température moyenne mondiale est en train d'augmenter. Donc, les efforts à fournir sur ce niveau-là et l'engagement que les États avaient pris sous l'accord de Paris continue à s'appliquer aujourd'hui. Et ce que Glasgow a fait, c'est de pouvoir ramener les États à cet engagement-là. Et donc, qui dit ramener les États à cet engagement veut dire plus d'actions qui vont dans le sens de réduire les émissions additionnelles et aussi des actions qui vont dans le sens de supprimer les quantités plus que proportionnelles de gaz à effet de serre qui sont actuellement dans l'atmosphère.
Voilà, et à cet effet, les États se sont engagés d'un côté à promouvoir les énergies renouvelables et de l'autre à réduire l'utilisation des énergies fossiles d'ici 2030, donc le pétrole, le gaz et le charbon. Professeur Longunza, si les grandes puissances ont semblé, n'est-ce pas, être réticentes à prendre cet engagement parce qu'il y a des enjeux économiques, et quelle serait, à votre avis, l'attitude des pays en voie de développement que nous sommes, nous, la RDC?
Bon, vous devez savoir que la guerre climatique ou le désaccord qu'il y a entre les États émetteurs, hein, les grands États émetteurs au niveau des pays développés et même dans les pays en développement, cette guerre, elle est d'abord et avant tout une guerre commerciale. C'est comme ça que le changement climatique ne doit pas être vu seulement sous l'angle naturel, mais il doit être vu dans son angle holistique. Il ramasse des questions commerciales, la compétitivité des entreprises et tout. Il ramasse des questions de sécurité et il ramasse aussi pas mal d'autres questions qui sont connexes à ces deux premières. Donc, les États, comme vous le dites, il y a eu une déclaration qui a été signée où les États s'engagent non pas à ne plus utiliser, il faut bien lire la déclaration en question, c'est pas que les États ne vont plus faire recours aux énergies fossiles d'ici 2030, mais à de nouveaux investissements dans le secteur des énergies fossiles. Il y a une grande différence parce que qui dit nouveaux investissements dit nouveaux arrivants dans le secteur, ou peut-être ce sont pas des nouveaux arrivants, ce sont des investissements qui croissent dans le secteur de production des énergies fossiles. Et c'est ce que les États ont déclaré ne pas vouloir entreprendre dans les années à venir, ça y est, d'ici 2030. Mais par contre, les producteurs traditionnels qui se situent au niveau de ces pays développés, les pays pollueurs, ils conserveront la part de production d'énergie fossile qui est actuellement sur le marché. Et peut-être ce qui arrivera aussi, c'est qu'ils vont petit à petit décroître cette part de marché au fur et à mesure que la part des énergies renouvelables, comme vous le dites, et aussi la part dans le secteur du transport plus précisément, la part des véhicules qui n'utilisent pas ces formes d'énergie s'accroîtra. Donc c'est d'abord des stratégies et des déclarations qui sont très bien régulées, en gardant le thermomètre sur les aspects commerciaux. Et quand vous dites aspects commerciaux, vous voyez tout de suite la concurrence qu'il y a entre l'Ouest et l'Est, notamment à reconquérir le marché africain et aussi à pouvoir s'implanter là où il y a toutes ces formes d'énergie potentiellement exploitables.
Oui, est-ce que la RDC est à même d'ici 2030 à réduire son indépendance aux énergies fossiles, professeur?
Bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je peux vous garantir que même pour les pays développés qui ont des moyens, cela est une utopie. Parce que tout le système de transport actuellement utilisé repose sur les énergies fossiles. Donc nous avons le transport maritime, il repose sur les énergies fossiles. Le transport aérien, il repose sur les énergies fossiles. Je ne vois pas le monde d'ici 2050 inventer des avions qui vont être des avions à énergie solaire ou des avions, je ne sais pas moi, avec quel type d'énergie. Il y a plusieurs autres sources d'énergie, bien sûr, on me parlera de l'hydrogène et tout, mais il y a des investissements importants à entreprendre pour pouvoir basculer du mode d'énergie que nous utilisons actuellement vers ces nouveaux modes d'énergie. Et aussi loin que nous le sachions, pour le moment, nous en sommes encore au niveau des études. et ça prendra encore des années pour pouvoir assurer ce basculement. Donc la RDC, en tant que pays en voie de développement, avec des ressources très limitées, ne peut pas se donner ce luxe-là. Si on le faisait aujourd'hui, ce ne sera qu'un slogan qui n'aura aucun contenu. Donc la RDC prendra le temps que ça prendra, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que le régime climatique actuel, je parle ici de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été adoptée en 1992, a fait une nette différence entre les États que nous appelons les États développés et qui sont responsables des émissions historiques de gaz à effet de serre. La Convention de 92 a fait une différence entre nos États qui ne sont pas responsables de ces émissions, donc qui n'avons pas bénéficié, comme ils l'ont fait, de l'industrialisation afin de nous créer des économies solides. Nos États ont encore le droit, sur le plan de ces conventions internationales,
merci,
de pouvoir créer une trajectoire de développement, mais ce qui nous est recommandé de faire, c'est de faire en sorte que ce développement puisse capitaliser sur les erreurs des autres, en sorte que ce soit un développement qui soit vert, plutôt que d'être un développement pollueur. Et ça, nous pouvons le faire, mais ça ne peut pas se définir en termes d'années. Ça doit être un plan que l'État, que la RDC va savamment confectionner.
Merci,
et tienne compte de ces réalités économiques et politiques, et de manière à ce que nous puissions savoir exactement à peu près à quel temps nous aussi nous pourrons devenir carbone neutre comme les autres sont en train de vouloir les devenir.
Merci, professeur Joseph Longunza. Nous vous gardons encore dans cette émission. Patrick Saïdi, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Bonsoir d'abord.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique des peuples autochtones. S'il vous est demandé de parler du bilan de la COP 26, que diriez-vous? Vous avez suivi le professeur Joseph Longunza, lui qui a parlé d'un bilan mitigé. Est-ce que c'est votre opinion aussi?
Oui, j'ai bien suivi les professeurs que j'ai salués en passant. Bon, par rapport à la COP 26, certes, à Glasgow, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris par les chefs d'État et les décideurs. Et la plupart d'engagements sont partis dans le sens de la mise en place des financements qui doivent favoriser la promotion des crédits carbone. Donc, ce qui veut dire, d'un côté, comment pousser un peu plus les pays à la mise en place des projets d'afforestation pour la séquestration de crédits carbone. Mais en même moment, pour revenir sur ce que prof disait, mais je vais aller un peu plus sur la question liée aux communautés. Il y a tous ces pays industrialisés ou le pays développé, comme on appelle les pays pollueurs. Et il y a nous autres, le pays en voie de développement. Donc, quand on parle de ces pays en voie de développement, on voit la RDC qui se retrouve au centre du grand bassin du Congo. Au-delà de notre grand bassin du Congo, certes, il y a les bassins d'Amazonie, il y a les bassins de l'Indonésie. Et ce qu'on nous demande d'un côté, c'est la préservation de ces bassins en termes du retien du carbone qui se retrouve dans ces bassins-là.
Justement, Patrick Saïdi, dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI en sigle, la RDC a obtenu un financement de 500 millions de dollars américains sur 10 ans pour protéger sa forêt. N'est-ce pas une nouvelle qui satisfait les peuples autochtones que vous êtes?
Oui, mais au-delà d'abord du contrat que la RDC a signé, mais j'ai raison d'abord si ce que prof disait, si je peux renchérir sur les points par rapport à la signature de cet accord entre la RDC et ses grandes puissances dans le cadre du CAFI. Donc, d'un côté, c'est les pays en voie de développement, notamment nous qui détenons ces grands massifs forestiers. L'objectif, c'est de nous maintenir dans cette situation où ce puits carbone ne doit pas bouger. Mais au même moment, le pays industrialisé, donc ce pays développé, continue effectivement à maintenir ce développement-là. Mais en réalité, dans les négociations qu'on était à Glasgow, la contrepartie n'arrive pas. Parce que, comme disait prof, par rapport à toutes ces questions liées à l'énergie fossile et ainsi de suite, il y a l'Inde qui a désisté avec l'accompagnement de la Chine. Il y a par exemple l'Afrique du Sud qui a eu beaucoup de financement, je crois plus de 8 milliards de dollars, pour abandonner l'énergie fossile, mais aller vers la transmission énergétique, donc adopter de nouvelles stratégies, de nouvelles approches avec moins d'incidence ou moins d'impact sur l'environnement. Et quand on revient vers nous autres, donc ces pays-là qui détiennent ces genres de bassins, une chose que la communauté internationale ne veut pas, c'est comment on arrive à payer les efforts consentis pour la préservation de ces puits carbone que nous avons détenus depuis des années et des années. Donc c'est le paiement des services environnementaux. Ça, tout le monde ne le veut pas. Mais la vision, c'est aller vers le paiement des nouvelles approches qui permettraient à ce qu'on arrive à séquestrer les émissions dues au gaz d'effet de serre. Et maintenant, par rapport à nous, les autochtones, et ces 500 millions que la RDC a reçu. 500 millions, oui, c'est un pas. Nous saluons, c'est un pas. Mais quand on voit la RDC, sur le plan géographique, et qu'on voit 500 millions, ok, on peut mettre un point d'interrogation. Mais au-delà de ça, les 500 millions, les forêts, par exemple, de la République démocratique du Congo ont été protégées par les autochtones pygmées depuis des années et des années. Et ce n'est pas que les pygmées, il y a d'autres communautés qui vivent dans ces espaces-là. Mais comment on arrive d'un côté à payer ou à valoriser les efforts que ces communautés ont fait dans ces espaces-là? Comment on arrive à maintenir ce système de gouvernance que ces communautés ont pu développer pour que ces forêts soient là? Mais aussi, et c'est l'élément le plus important, comment on arrive à financer, si vous voulez, le même système pour que les générations qui viendront après continuent à maintenir ce système-là? On a donné 500 millions à la RDC dans le cas du café. Mais les 500 millions, certes, oui, c'est de l'argent d'un côté qui passe par des grandes organisations au niveau international, ainsi de suite. Et on connaît, mais ça ne vaut pas par rapport à ce que la RDC vaut.
Voilà, donc pour vous, les 500 millions, ce n'est pas suffisant et vous avez tout à fait raison. Mais qu'est-ce que vous recommanderez au gouvernement pour que ces fonds, même si ce n'est pas suffisant, mais au moins que ces fonds-là, les 500 millions, puissent effectivement arriver aux communautés locales que vous êtes afin de vous permettre, n'est-ce pas, de jouer le rôle qui vous est demandé, celui de protéger la forêt. Parce qu'il est souvent dit que dans la conception des États, la grande partie de ces fonds n'arrive pas, n'est-ce pas, aux communautés, n'arrive pas aux peuples autochtones. La grande partie de ces fonds est souvent affectée, n'est-ce pas, dans d'autres projets.
Ce que moi je recommanderais à l'État, d'un côté, c'est on doit avoir un pays où les dirigeants qui nous dirigent, effectivement, se réveillent. Parce que quand on était à Glasgow, à travers le chef de l'État, le slogan c'était la RDC, pays solution. Pays solution, ça c'est une phrase. Mais qu'est-ce que nous mettons effectivement dans cette phrase-là, en termes d'ingrédients, RDC, pays solution? On doit avoir des dirigeants qui se réveillent. Un pays qui se réveille. Où tout le monde est consciencieux de ce qu'on a comme héritage. On a un pays exceptionnel. C'est à nous de prendre le devant. La RDC ne se retrouvera pas toujours dans ces grandes rencontres comme un pays mendiant. Où, d'un côté, nous disons, voilà, il y a nos forêts, voilà. Donc, un pays où on est tellement en train de mendier à tel point qu'on ne sait pas ce qu'on possède. Prise de conscience, et on doit mettre aussi, parce que quand on négocie, c'est la contrepartie, qu'est-ce que l'État congolais met.
Merci.
Donc, la prise de conscience, une bonne planification, une bonne cohérence dans les politiques du pays, une bonne harmonisation dans les différentes réformes qui permettrait effectivement, d'un côté, soit qu'on arrive à protéger et garantir sérieusement ces ressources naturelles, mais aussi une bonne vision pour que les fils et les filles de ces pays arrivent à se retrouver dans tout ce que le pays est en train de demander ou de négocier aux
internationaux. Merci Patrick Saïdi. Alain Parfait-Ngoulungou, expert en gouvernance forestière et climatique. Votre bilan aussi par rapport à la COP26?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour nous avoir associés à ces débats. D'abord, j'aimerais saluer aussi vos auditeurs ainsi que le co-débatteur. De manière globale, je peux dire que le bilan de cette COP26 a été mitigé parce que les résolutions à l'issue de cette grande messe climatique ont pratiquement, si je peux dire, sapé les dispositions 6 de l'accord de Paris et même aussi l'article 4 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui appelle de manière globale tous les États parties à la coopération pour justement mettre en place des contributions déterminées au niveau pays pour enfin relever le niveau de l'ambition. Mais qu'est-ce que l'on a remarqué, que ce soit en termes d'atténuation ou d'adaptation, on a remarqué que les États parties à cette convention s'étaient limités seulement à 1,5 degrés Celsius en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour justement s'est cadré justement à cette position-là, alors que, selon le dernier rapport du GIEC, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui prévoit une augmentation catastrophique d'émissions en termes de COD au niveau de 2,7 degrés Celsius, si le monde entier n'y prend garde, donc il y aura certainement des catastrophes qui vont subvenir après justement cette sorte de désengagement que l'on observe dans les chefs d'État partis. Mais aussi, plusieurs pays n'ont pas rendu les rapports de contribution déterminés au niveau national. Évidemment, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées, mais probablement ils doivent les faire d'ici 2022. Et enfin, il y a un autre aussi, c'est l'abandon aux énergies fossiles, au charbon. On a remarqué pour la première fois d'ailleurs que cette déclaration a réduit le charbon, mais on a remarqué des pressions des pays comme l'Arabie Saoudite, la Russie, qui ont fait en sorte que le charbon soit encore maintenu, évidemment, même si son utilisation sera diminuée, mais on remarque que d'ici 2030, on n'aura pas abandonné le charbon, qui est un grand émetteur de gaz à effet de serre. Et enfin, peut-être aussi l'aide prévue aux pays qui sont affectés par les conséquences du dérèglement climatique. Les pays du Nord, les pays développés ont promis une aide aux pays qui seraient affectés par les changements climatiques. On espère bientôt que dans les années à venir, ils vont respecter cette fois-ci leur engagement. S'ils ne le font pas, malheureusement, le rapport GIEC que j'ai fait mention tout à l'heure est clair là-dessus, qu'il sera impossible sans une réduction majeure et immédiate des émissions de gaz à effet de serre si l'élimination nette des CED atmosphériques n'est pas suivie dans les 10 prochaines années.
Donc, allez, parfait.
L'effort appelé aux États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est de limiter réellement à plus de 1,5 degrés Celsius.
Réduire l'utilisation des énergies fossiles, qui est, n'est-ce pas, l'objectif principal. Est-ce que la dépendance absolue de nos économies aux énergies fossiles ne risque pas de rendre hypothétique le respect de cet engagement?
Oui, il y a des enjeux économiques, voire même géopolitiques autour de cette dépendance. Vous voyez, un pays comme la Russie n'abandonnerait pas si tôt les énergies fossiles parce qu'elle en tire énormément des avantages économiques. Et son développement économique en dépend très largement. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'un tel pays pourrait abandonner ses choix, qui est tout à fait un choix légitime, un choix national pour maintenir son élan de développement, pour l'offrir dans le cadre de l'action climatique mondiale. Et donc, c'est vraiment des questions économiques, des questions géostratégiques qu'un tel pays comme aussi l'Afrique du Sud n'abandonnerait pas le charbon alors qu'il a des problèmes énergétiques assez redondants. Et donc, il est impossible de demander à ces pays-là de l'abandonner si tôt. Mais il est clair que si ces États parties n'abandonnaient pas cette propension à s'attacher à ces énergies fossiles, il est clair qu'il y aura sûrement des conséquences néfastes qui va justement occasionner encore beaucoup plus le réchauffement climatique. Et donc, nous allons nous retrouver toujours dans cet embarras des choix entre le développement durable et l'ambition économique d'un pays comme les pays que j'ai fait allusion tout à l'heure là. Mais un pays comme la RDC, ce qui est important pour nous, il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier, que nous avons aussi prévu notre développement, parce que la RDC s'est engagée, comme vous le savez, dans l'agenda 2030 et a articulé même sa stratégie de développement autour des ODD, et que dans le programme national stratégique de développement, nous avons prévu que d'ici 2028, que le PIB par habitant de la RDC soit porté à 1 150 $. Et donc, cette ambition-là de développement national doit être ancrée justement à l'action climatique mondiale que nous sommes en train d'anticiper avec tous les États partis. Notre stratégie, dès lors que nous l'avions déjà démontré dans notre plan et que nous l'avions alignée dans les ODD, doit absolument, absolument, j'allais dire, contribuer efficacement à l'action climatique.
Merci Alain, nous allons vous redonner la parole parce qu'on n'a plus assez de temps. Et nous allons maintenant, n'est-ce pas, donner l'occasion à ces auditeurs qui sont en train de nous appeler pour donner leur point de vue par rapport à cette question. Professeur Joseph Longunza, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Isiro.
Il est vrai que la RDC est un pays solution pour le climat, comme l'a dit le président Félix Yatouane Tshisekedi au cours des COP26, mais j'ai du mal à croire à la concrétisation des engagements pris par les pays membres. Car à chaque négociation, la RDC a toujours sorti perdante. À mon avis, 5 millions de dollars pour promouvoir des énergies renouvelables et réduire l'utilisation des énergies fossiles, d'ici 2030, c'est du coup de pied pour être à Congo. La RDC ne doit pas compter sur les engagements, mais plutôt revoir les codes forestiers, développer son pays par la bonne gouvernance et définir une politique nationale de gestion des pollutions. RDC restera toujours pour une solution, théoriquement, mais à pratique, néa.
Professeur Joseph Olongouza.
Oui, je salue l'auditeur qui vient de donner son point de vue. Dans ce qu'il a dit, il y a des choses qui sont pertinentes, il y a aussi des choses qui méritent une attention et une amélioration. Par exemple, lorsqu'il parle des engagements internationaux qui n'ont jamais été concrétisés, je suis partiellement d'accord avec lui, parce que nous, en tant que pays, la RDC, dans notre position à la COP26, nous avons demander à nos contreparties internationales de pouvoir respecter leurs engagements contenus dans l'accord de Paris. Et nous sommes conscients, par exemple, comme le disait aussi l'un des co-panélistes, je crois que c'était Patrick, qui faisait allusion aux 100 milliards de dollars qui n'ont jamais été respectés. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Mais par contre, lorsqu'il parle des 5 millions ou 500 millions pour les énergies renouvelables de la RDC, bon, je ne sais pas où il tire ces chiffres, peut-être qu'il y a eu un lapsus dans les langages, mais je crois que là où il chute en disant que la RDC ne doit pas compter sur les promesses internationales, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, l'a dit plusieurs fois que la vision de la RDC aujourd'hui, c'est d'être un pays indépendant et autonome. Mais on ne peut pas arriver à l'autonomie sans passer par un cycle d'assistance. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il a besoin de s'appuyer sur sa maman ou sur une table, mais il ne restera pas éternellement en train de s'appuyer. Donc c'est le cours normal des États de pouvoir dépendre à un moment donné d'une assistance. Mais la RDC, avec toutes les ressources que nous avons, nous pouvons le faire sans toutes ces assistances-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Et une bonne lecture de la situation de la RDC vous permettra de comprendre que nous sommes dans le bon, politiquement parlant, parce qu'il y a déjà en chantier la politique forestière qui tiendra compte de pas mal de choses que l'auditeur de Ouvira a soulevé, et aussi qui balisera la politique d'utilisation des ressources forestières pour l'avenir. J'aimerais atterrir en disant ceci. Quand il parle de du slogan, c'est pas un slogan, la RDC pays solution, le chef de l'État a ramené le pays sur la scène climatique internationale. Pour votre information, depuis la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1992, à moins que ma mémoire ne me trompe, aucun chef de l'État de la RDC ne s'est présenté et a fait comme venait de le faire son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est allé et qui a donné un signal fort au monde entier. Nous étions à Glasgow, je suis revenu hier, et il faut voir comment l'appréciation a été faite à notre pays par rapport non seulement à la présentation du chef de l'État, mais aussi à la présentation, à la permanence et à la perspicacité de la vice-première ministre, la ministre en charge de l'environnement, Eva Zaïba, qui a mené de main de maître les négociations et qui a repositionné la RDC dans ce concert. Parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC, il y a des personnes qui commençaient à nous oublier. Et donc il nous fallait, stratégiquement parlant, revenir sur les débats. Et nous avons choisi ce thème, RDC Pays Solution, et c'est pas seulement un slogan, comme je le disais, c'est une réalité. Nous sommes détenteurs du plus grand, en tant que pays du bassin du Congo, de la plus grande forêt qui séquestre le carbone au niveau mondial. Je vous informe que c'est plus le Brésil, les études l'ont démontré. Le Brésil a été saigné par de la déforestation incontrôlée durant toutes ces années. Et aujourd'hui, le poumon mondial numéro un, c'est le bassin du Congo. Et dans le bassin du Congo, la RDC a 62% des ressources forestières.
Patrick Saïdi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kananga au Kasaï Central.
Maître Alidor Mampouya, avocat au bureau du Kasaï Central, se trouvant dans la ville de Kananga. Les assises de la COP26 ont abouti à certaines recommandations et la RD Congo a été présentée comme pays solution. Mais une chose est vraie, la RDC va toujours tomber devant la tentation des multinationales qui exploitent abusivement ces forêts et que, tant qu'il y aura la mauvaise gouvernance au Congo, tous les fonds alloués, au lieu de servir la protection de l'environnement, serviront par contre à certains individus, comme nous l'avons toujours constaté et décrié dans notre pays. Avec le changement de régime et de gouvernement, cet argent ne servira en rien et avant cette COP26, sera égal après la COP26.
Patrick Saïdi.
Bon, ça c'est... Merci à notre auditeur. Mais je comprends son point de vue, hein, comme disait prof, c'est la première fois. Hein, en réalité, c'est vraiment la première fois. Moi-même, j'ai participé à beaucoup de COP, mais c'est la première fois qu'on voit un chef d'État, de la RDC d'ailleurs, qui se déploie, qui est là, qui passe son temps, effectivement, dans ses échanges au niveau mondial sur les climats. Mais au même moment, oui, il y a ces besoins, il y a ces doléances au niveau national, au niveau des terrains. C'est ce que notre auditeur est en train de nous rappeler. Au fait, la concrétisation des engagements que les dirigeants prennent au niveau le plus élevé. Alors, le CAFI, oui, c'est un fonds qui est là. Le CAFI, ce n'est pas un fonds nouveau, parce que le CAFI existe. Il y a eu déjà le premier accord qui a été signé entre la RDC avec ces pays au niveau de l'Union européenne, environ 200 millions de dollars. On a tous décrié la gestion de ces fonds, mais j'espère, à mon avis, il y a des choses qui ont été améliorées avec la présence du chef de l'État, parce qu'il était là lui-même, pour aller vers 500 millions de dollars. Et qu'est-ce que les gens peuvent espérer? Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que les choses vont se faire différemment? Alors, ma réponse par rapport aux préoccupations de notre auditeur, c'est de dire, au niveau mondial, tout le monde est conscient sur le fait que nous devons changer notre façon de faire. Ça veut dire que les solutions par rapport à la lutte contre le changement climatique doivent passer par la valorisation des approches et des connaissances que nous déployons, nous tous, sur l'entretien de l'environnement elle-même.
Merci.
D'une manière simple, ça veut dire que c'est les solutions basées, fondées sur la matière.
Merci beaucoup. Alain Parfait Goulungu, vous allez aussi réagir à la réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, au Nord Kivu.
Issa Mastaki Aladin, depuis la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Nous ne resterons pas éternellement les protecteurs de pays industrialisés. Pendant que nous mourrons de faim, nous avons aussi besoin de développement industriel. Il s'est avéré que le pays pollueur n'arrive ni à diminuer leur statistique de pollution, ni à donner la compensation suffisante pour la conservation des forêts du bassin du Congo. Sur ce, nous avons besoin de rattraper les dents, non par la conservation intégrale, mais par l'exploitation rationnel de nos forêts pour répondre aux besoins primaires de nos populations, surtout celles vivant dans les zones forestières. Le Congo a besoin de vivre et non faire vivre d'autres nations.
Alain Parfait Ngolungu.
Oui, merci beaucoup pour notre auditeur de Goma. Je comprends bien sa préoccupation parce que il habite à l'est du pays où il y a plusieurs aires protégées où des flux importants circulent pour assurer la protection de la nature aussi bien que des animaux. Et il ne faut pas oublier, pour répondre à sa question, que la vision de la RDC en matière de lutte contre le changement climatique est d'abord de promouvoir une économie verte et résiliente ou une économie à faible émission. Et donc, à ce sujet, le Congo pense gérer de manière très rationnelle ses ressources naturelles et donc nous pouvons promouvoir à la suite de cela une économie qui soit en mesure aussi de pouvoir concilier le développement durable mais aussi la conservation. Et de dire, il ne faut pas oublier que la lutte contre le changement climatique ou de manière globale, l'action climatique demande à ce que qu'on agisse localement pour influencer le climat sur le plan global ou sur le plan mondial. Et donc, c'est à ce titre que nous, en tant que pays, entre guillemets, solution, nous pouvons contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques. Mais il y a des efforts qui sont demandés, notamment en matière de réformes sur le plan de la gouvernance, sur le plan foncier, sur le plan de l'aménagement du territoire, qui devrait en principe concourir à atteindre les objectifs assignés à l'action climatique. La RDC, comme état parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, devrait absolument, à mon sens, contribuer aussi de cette manière-là pour faire reculer le dérèglement climatique qui sévit actuellement et qui fait, si on n'y prend garde, risquerait de faire périr l'humanité tout entière dans les années à venir.
Merci, professeur Joseph Longunza. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons conclure. Qu'est-ce que la RDC, à votre avis, devrait-elle faire pour concrétiser les engagements qu'elle a pris, n'est-ce pas, lors de ses assises à la COP 26? Vous avez évoqué ces projets d'élaboration de la politique forestière. Vous avez suivi M. Alain Parfait Ngolungu, qui a proposé, n'est-ce pas, des réformes, notamment dans les secteurs fonciers. Quelles sont les actions qui doivent être menées pour que nous puissions effectivement respecter nos engagements, professeur Joseph Longunza?
Bon, je crois que par rapport aux actions, si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, on pourra y revenir en long et en large pendant une autre opportunité parce que
merci.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et nous sommes tout à fait disposés pour le faire. Mais il y a des actions au niveau politique et puis il y a des actions au niveau communautaire. Les actions au niveau politique, nous avons une claire définition et puis une mise en application de notre politique climatique qui a été élaborée et qui va bientôt être rendue publique. Et là, il y a des détails parce que, comme je viens de le dire, le temps ne nous permettra pas d'y aller. Deuxièmement, au niveau des actions communautaires, il y a une chose que j'aimerais relever, c'est que l'erreur des dirigés, c'est de pouvoir attendre tout des dirigeants. Je sais, je suis congolais, je suis né et vécu dans ce pays, je travaille pour mon pays aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas de pouvoir dire que malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous devons apprendre à faire confiance à nos dirigeants que nous avons nous-mêmes élus et à pouvoir soutenir leurs actions. Lorsque le gouvernement dit, lorsque le président de la République annonce au monde entier que la RDC est un pays solution, le président ne peut pas donner un discours qui soit creux. Il y a tout un programme qui est derrière. Mais ce programme va être inefficace si nous-mêmes Congolais, nous n'arrivons pas à nous l'approprier. Nous devons connaître ce que nous sommes. Nous devons savoir ce que nous avons. Et aujourd'hui, au niveau international, c'est le rapport des forces. Vous êtes une nation parce que vous avez quelque chose à mettre sur la table. Si vous n'avez rien, vous êtes nulle part, vous êtes balayé. La RDC, nous avons ce que nous avons, nous n'allons pas peut-être aller dans les détails, mais nous sommes effectivement un pays qui a un mot à dire en termes de solutions pour le changement climatique. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais, en termes d'action, premièrement, à répandre nos esprits. Nous devons nous réveiller, nous devons restaurer l'espoir, et puis nous devons nous mettre au travail et être à l'écoute du gouvernement. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Nous voulons que le pays change et nous avons un gouvernement devons apprendre à accompagner le gouvernement et à accepter
merci
de porter notre charge à nous en tant que
citoyens. Malheureusement, on n'a plus assez de temps comme vous l'avez proposé. Je crois qu'on va faire une autre émission au sujet des actions qu'il faudra, n'est-ce pas, mener. Et Patrick Saïdi, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est de dire que, comme disait Prof, la RDC, c'est un grand pays, c'est un pays solution. Mais tout passe par lever de conscience et aussi un élément qui est très capital pour peser dans les négociations au niveau international. On doit être d'abord robuste au niveau interne. Et être robuste au niveau interne, c'est-à-dire avoir des bonnes politiques, une bonne gouvernance, enfin de challenger les autres.
Merci, merci Alain Parfait Ngolungu. Votre conclusion?
Très rapidement, ma petite conclusion est celle de dire que un pays solution doit rimer avec l'essence des responsabilités et d'assumer son leadership sur le plan régional et voire même international dans ces débats climatiques et aussi faire participer toutes les forces sociales et intellectuelles à ces grands débats internationaux sur le changement climatique au lieu de voir que les officiels qui, évidemment, y participent sans écouter même les universitaires et la société civile.
Merci, merci au professeur Joseph Longunza Malassi, à Patrick Saïdi, à Alain Parfengoulungu d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Basunga qui était la technique, à Kelly Nkouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabou Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi.